Les requins regroupent environ 490 espèces à travers le monde. Pêchés pour leurs ailerons, ils sont désormais menacés d'extinction. Grâce aux éditions Quae, au WWF, à Shark Alliance, mais aussi à la librairie Gibert Jeune où son ouvrage est en vente, Pascal Dena, spécialiste des requins, publie un travail entamé voici plusieurs années, avec près de 400 photographies de Jeff Rotman. L'Institut océanographique Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, accueille jusqu'au 8 septembre prochain l'exposition « Requins pour quelques nageoires de trop », exposition photographique réalisée par Pascal Dena, soutenue par le ministère de l'Écologie.
Des très très jeunes enfants qui devaient avoir 5 ou 6 ans à peu près. J'étais en train de leur présenter des mâchoires de requins et la manière dont les requins renouvelaient leurs dents. Et il y a un petit garçon qui à un moment levé le doigt et m'a demandé « Mais est-ce que la souris vient leur apporter une petite pièce à chaque fois qu'ils perdent une dent ?» Je n'ai pas su quoi répondre parce que j'étais assez étonné. Et il y a une petite fille qui était juste à côté qui lui a dit « Mais non, parce que sinon la souris va se noyer. »
Pascal Dena, je vous la lis ou vous me la lisez cette lettre?
Vous pouvez la lire si vous voulez, il n'y a pas de problème.
Palais de Monaco le 13 juillet 2010, docteur, parce que vous êtes...
Docteur S. Sciences, donc que j'ai obtenu en 1996 de l'Université Paris 7.
Le prince m'a chargé de vous remercier bien vivement de votre courrier, dont il a pris connaissance avec intérêt. Il forme le vœu que cet ouvrage puisse effectivement sensibiliser les lecteurs sur l'importance de protéger et préserver la biodiversité. Je vous prie d'agréer, docteur, l'assurance de ma considération distinguée, le chef de cabinet Georges Lisimachio. Vous êtes en effet lauréat de la Fondation de la Vocation et cette lettre et ces remerciements, vous les avez reçus non seulement de la part de Monaco, mais de la part de l'ensemble des autorités françaises.
Oui, tout à fait. Monaco, c'est une histoire maintenant un petit peu ancienne puisque j'ai obtenu mon prix de la Fondation de la Vocation en 1991. Cette année-là, ça a été la chance en fait puisque le parrain de la promotion était le prince Régnier III de Monaco. D'ailleurs, quand je suis monté sur scène, présenté par le paléontologue Yves Coppens, quand il a su que je travaillais sur les requins, il s'est retourné vers moi, il a eu un petit sourire. Et là, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose quand même, puisque le prince Albert, lui, était très connu dans le domaine de l'océanographie et l'ichtyologie. Et donc, ça a commencé comme ça. Et c'est cette bourse donc, qui m'a permis de continuer ensuite mes études doctorales sur le revêtement cutané des chondrichtiens, donc des poissons cartilagineux. Et donc par la suite, en 1996, quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai donc écrit au prince Régnier qui m'a répondu très très gentiment, avec beaucoup d'intention, indiquant qu'il était toujours intéressé de connaître ce que devenaient un petit peu les lauréats de la Fondation de la Vocation, qui avait même transmis à l'époque ma lettre au professeur Doumain qui était responsable de l'Institut. Et donc il était tout à fait logique que la sortie de mon ouvrage et de l'exposition que je réalise actuellement en partenariat avec l'Institut océanographique et différents partenaires puisse aller directement auprès de l'Institut océanographique de Monaco et auprès du prince Albert de Monaco.
Retour à Monaco en quelque sorte, puisque nous sommes dans les locaux de l'Institut océanographique Fondation Albert Ier pour l'exposition que vous consacrez aux requins. Une exposition qui commence d'ailleurs à faire pas mal de bruit alors que l'accrochage a eu lieu il y a peu de temps. Malheureusement, ce sont des photos qui sont absolument superbes.
Heureusement et malheureusement, parce que d'un côté nous avons de très très belles photos qui sont effectivement prises pour la plupart de Jeff Rotman qui est un très grand photographe sous-marin. Ce sont de très belles photos de requins donc sous l'eau, vivants, mais il y a également toute une seconde partie, bien évidemment qui est beaucoup plus triste, puisqu'elle concerne toute la partie du finning, c'est-à-dire cette pratique absolument inacceptable, qui consiste à tuer des requins uniquement pour prélever leurs ailerons et pour en faire une soupe qui est prisée par les Asiatiques et qui est vendue très très cher et qui malheureusement est en train de provoquer la disparition inéluctable et progressive de la plupart des espèces de requins actuelles.
Qu'est-ce que c'est qu'un requin ? On dit aussi un squale.
Alors squale, c'est une dénomination un petit peu ancienne maintenant. Les requins font partie d'une grande classe qu'on appelle les poissons cartilagineux, qui regroupe également les raies et les chimères et qui recense à peu près 1190 espèces. Ce qui est quand même assez peu par rapport aux 40 000 espèces de poissons osseux qui sont actuellement recensées. Si on veut faire des grandes généralités, un requin c'est quoi ? C'est une espèce de poisson avec un squelette entièrement cartilagineux, dont la peau est recouverte d'éléments dermo-épidermiques qu'on appelle des denticules cutanés, qui possède des dents qui se renouvellent constamment, qui possède également 6 à 7 paires de fentes branchiales qui sont soit latérales chez les requins, soit ventrales chez les raies, qui fréquentent à peu près toutes les eaux du monde. On en trouve dans les eaux chaudes, les eaux très froides, les grandes profondeurs, la surface, etc. etc. Et il y a à peu près donc 490 espèces de requins.
Ça vous a vraiment inspiré les requins ?
Au départ, ce n'est pas exactement ça qui m'avait inspiré. J'avais toujours une vocation de naturaliste, puisque en fait, quand j'étais gamin, ma grand-mère avait un énorme jardin dans lequel je passais la plupart du temps. J'étudiais les insectes, les animaux, ensuite les étoiles. Et puis j'ai voulu m'intéresser, comme à peu près tous les enfants, à la paléontologie, donc les dinosaures, etc. Et puis quand j'ai fait mes études à l'Université des sciences d'Amiens, quand je suis arrivé en maîtrise, j'avais donc un sujet sur les adaptations morpho-fonctionnelles des élasmosaures, ce qui était quand même déjà très très précis.
Un petit peu.
Et mon directeur, qui était paléontologue, m'a dit, écoute, ça c'est un sujet trop bateau.
Formule prémonitoire.
Tu vas plutôt réfléchir au sujet suivant. L'adaptation résume-t-elle à elle seule l'évolution? J'ai trouvé que c'était un sujet plus philosophique que scientifique. J'ai donc été un petit peu déprimé. Et puis en rentrant chez moi, alors que je réfléchissais, j'ai regardé le poster des Dents de la Mer qui était au-dessus de mon lit. Et puis j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je n'étudierais pas les requins d'un point de vue scientifique? Et de m'écarter un petit peu de cette image de mangeur d'hommes et de m'investir véritablement là-dedans. Donc, j'ai commencé à proposer ce sujet à mes responsables au niveau de l'université. J'ai contacté ensuite le Muséum d'Histoire Naturelle où je suis tombé sur le seul spécialiste des requins, Bernard Serret. Il m'a aidé, m'a pris ensuite sous son aile quand j'ai fait mon DEA, puis ma thèse de doctorat. Et là, je me suis aperçu que les requins étaient vraiment un monde absolument fascinant, qui était bien loin de cette mythologie de mangeurs d'hommes qu'on véhicule malheureusement un petit peu trop souvent.
On va quand même peut-être pas aller les caresser. Il y a une somme qui est à votre signature. C'est un livre de modélisation, identification des ailerons de requins, des espèces les plus menacées.
Je m'étais aperçu en fait qu'on pouvait identifier les espèces à partir de quelques échantillons de peau simplement. Parce que les denticules cutanées, à l'inverse des écailles des poissons, sont des structures en fait qui tombent et se renouvellent, mais qui ont également des formes très particulières selon la localisation sur le corps, mais également en fonction de la maturité sexuelle. Donc on peut définir des grands groupes de requins comme ça. Et m'était apparu qu'il était possible également de pouvoir identifier les ailerons qui étaient séparés du corps.
À partir des ailerons que l'on retrouvait, pouvoir identifier les espèces qui avaient été massacrées.
Faire une cartographie générale de toutes les espèces existantes dans un gros projet que j'avais créé donc en 2001 qui s'appelle le projet Odontobase, qui voulait faire un atlas de recensement de toutes les morphologies de denticules cutanées de toutes les espèces de requins. Ça me prenait beaucoup de temps parce qu'il avait fallu que je trouve une activité alimentaire, donc ça fait 12 ans que je travaille maintenant dans une librairie. J'ai donc continué mes recherches scientifiques en parallèle, donc sur mes temps de vacances, mes week-ends, etc. Et en fait, l'opportunité s'est faite puisque l'une de mes collègues de la Fondation de la Vocation, donc du Muséum d'Histoire Naturelle, Françoise Sercollet m'a dit, écoute, je connais quelqu'un au WWF qui s'appelle Stéphane Ringuet, ton projet sur les requins, ça peut l'intéresser. Il a dit, moi je suis très intéressé pour de nouveaux outils qui peuvent identifier et protéger les espèces de requins les plus menacées. On a donc mis au point un projet global, y compris également avec Shark Alliance, avec Trafic International. Et donc, pour ne pas se focaliser sur toutes les espèces de requins, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, on a donc décidé de s'intéresser aux 48 espèces de requins les plus menacées de la liste de 2007 de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Mais j'ai quand même voulu développer mon ouvrage sur l'identification dichotomique des nageoires des principaux groupes, de manière au moins à ce que les services douaniers internationaux puissent avoir une idée à peu près claire de ce qu'il en était.
Vous vous êtes débrouillé tout seul en travaillant la journée chez Gilbert Jeune et le soir en modélisant les ailerons de requins dans votre coin, chez vous?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc heureusement, à ce niveau-là, j'ai quand même réussi à tisser un réseau avec des chercheurs internationaux, des organismes, que ce soit l'Université d'État de Rio de Janeiro au Brésil, que ce soit le Natal Sharkbone en Afrique du Sud, la Smithsonian Institution aux États-Unis, le Natural History Museum en Angleterre. Et effectivement, j'ai commencé à collectionner mes petits morceaux de peau. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Anthony Chappelle qui travaille au service des douanes des aéroports de Paris, qui lui est également un fou des requins dans le bon sens du terme.
À l'aéroport de Roissy, terminal.
Ah oui, tout à fait. Qui a réussi à m'avoir des revêtements cutanés d'espèces qu'on n'avait même pas au Muséum d'Histoire Naturelle. Et j'ai commencé effectivement ma base de données comme ça.
Ça doit être bizarre chez vous, honnêtement.
Il y a des requins qui se baladent un petit peu partout. J'ai un grand support en plastique qui est sous mon lit, mais je vais acheter un meuble prochainement pour mettre tout ça. Mais effectivement, c'est un petit peu bizarre, mais ça peut permettre de faire également avancer la recherche. Et c'est pour ça que ce bouquin est venu après ces 3 ans de travail.
Puisque vous en êtes à faire du rangement, comment est-ce qu'on classe des requins?
Les requins sont classés selon plusieurs critères, selon qu'ils soient les plus menacés, voire quelquefois complètement éteints. Ceux qui sont menacés, mais il y a encore de l'espoir, etc., etc. Et le problème, c'est qu'entre le moment où j'ai déposé mon manuscrit en 2007 et en 2009, lors de la dernière réunion de l'Union internationale pour la conservation de la nature, 26 nouvelles espèces de requins sont venues se rajouter. Notamment tous les requins renards qui n'étaient pas incorporés dans la liste sont maintenant tous sur la liste, soit vulnérables, soit en danger, mais maintenant ils y sont placés. Quant à la CITES, elle réglemente également de son côté les pêches. On peut toujours pêcher ces animaux, mais ça sont réglementés. Et il n'y a que 3 espèces qui sont sur cette liste. Le grand requin blanc, le requin baleine et le requin pèlerin.
C'est déjà pas si mal. Et on sait à quel point Monaco sait s'engager comme elle l'a fait pour le thon rouge.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai suivi ça avec attention, même si malheureusement les résultats n'ont pas été à la hauteur de l'attente, puisqu'il y a eu beaucoup de lobby de la part des pays qui effectivement vivent de ce commerce. Néanmoins, le fait qu'on puisse mettre en avant une protection sur le thon rouge parce que l'espèce est menacée est extrêmement important pour la suite et surtout pour les autres espèces animales. Puisque les organismes de protection, les ONG, etc. se battent toujours pour essayer de protéger ces espèces, on s'aperçoit malheureusement qu'au niveau politique, il n'y a pas grand-chose qui suit. Et surtout quand il y a un lobby au niveau de pays entiers, c'est vraiment très très difficile.
C'est bon à ce point des ailerons de requins?
Non seulement ce n'est pas bon, mais en plus de ça, la chair des requins est de plus en plus toxique. Parce que des études ont montré que maintenant, la chair des prédateurs pélagiques était empoisonnée avec des métaux lourds, des insecticides, des tas de produits chimiques en fait, qui dérivent directement de l'activité humaine. Et notamment sur ces grands prédateurs qui sont à l'extrémité de la chaîne alimentaire, en général, ces produits chimiques sont 400 000 fois plus concentrés que ce qu'ils ont quand ils arrivent dans le milieu marin.
La menace qui pèse sur les requins, ce n'est pas seulement le fait qu'on leur coupe les ailerons, mais c'est en plus le fait qu'ils sont en bout de chaîne alimentaire et qu'ils sont intoxiqués.
Voilà, mais le problème qui se pose, c'est que les requins ne ressentent pas en fait, cette toxine, puisqu'elles sont insipides, incolores, inodores. Elles s'accumulent uniquement dans leur tissu, mais le problème vient de ceux qui les consomment. En consommant du poisson, ils ingurgitent également ces métaux lourds et ces produits chimiques qui se répercutent dans leur organisme. Qu'au bout d'un moment, ça commence à provoquer des problèmes au niveau neurologique, y compris même au niveau de la division cellulaire, au niveau des gonades, c'est-à-dire entraînant des problèmes de stérilité. On ne sait pas encore exactement quel est le seuil. Chez les requins, on sait que le seuil est important parce que ce sont des poissons qui mangent d'autres poissons. Chez les êtres humains qui mangent du poisson de manière plus ou moins importante selon les pays, on ne sait pas exactement quelle en est la teneur. Mais on sait que ce risque existe et que certaines espèces de requins sont même interdites à la pêche, comme le requin marteau à licorne, parce que leur chair est trop riche en mercure et en produits chimiques.
Il vous arrive d'enfiler un masque et des palmes pour aller à la rencontre de vos chers requins ?
Non, pas vraiment, parce que le paradoxe qui se pose est le suivant. J'étudie les requins, mais je suis aquaphobe, j'ai peur de l'eau. Donc je ne monte pas sur les bateaux. Quand je vais en bordure de mer, en général, j'y vais là où j'ai pied. En dehors de ça, moi, je suis plutôt un ichtyologue de musée. J'étudie les collections, les spécimens qui sont là-bas, mais les bateaux et moi, ça fait deux.